Bonsoir. La Fondation Bill Clinton pour la paix a dénoncé mardi dernier, dans un point de presse, plusieurs cas d'arrestation et détention arbitraire, ainsi que d'empoisonnement illégaux. Selon cette fondation, ces différents cas de violations de droits de l'homme sont observés dans les prisons de Makala, de Matete et à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Quelle lecture faire de cette dénonciation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 20 octobre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Emmanuel Cole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG de défense aux droits de l'homme. Monsieur Cole, bonsoir.
Bonsoir.
Dieudonné Moïse, député honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Moïse, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Christian Munganza, analyste politique. Bonsoir, monsieur Munganza.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Paul Kama depuis Bruxelles, en Belgique. Ceci n'est qu'un échantillon des cas qui, à l'échelle de tous les pays, doit être catastrophique. Comment peut-on bâtir la démocratie sans un état de droit et comment construire un état de droit sans les droits humains? Merci de nous suivre, partenaire DC, sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
2000 cas de détention arbitraire, 600 cas d'arrestation arbitraire et 700 cas d'emprisonnement illégaux. C'est ce qu'a dénoncé mardi dernier à Kinshasa la Fondation Bill Clinton pour la paix au cours d'un point de presse avec d'autres ONG de défense des droits de l'homme. Selon cette fondation, ces différents cas de violation des droits de l'homme sont observés dans les prisons de Makala, de Matete et à la prison militaire de Ndolo. Parmi les victimes, la Fondation Bill Clinton évoque les cas des bénéficiaires de la loi d'amnistie, dont certains ont longtemps recouvré la liberté, mais bon nombre continuent à croupir encore en prison sans raison valable. Berry Luchaka pour les détails.
Selon leur communiqué conjoint, les ONG de défense des droits de l'homme, dont la Fondation Bill Clinton pour la paix, ont enregistré dans la ville de Kinshasa, d'une manière non exhaustive, 600 cas d'arrestation arbitraire, 2000 cas de détention arbitraire, 550 cas d'emprisonnement illégaux et plus de 200 cas qui concernent des enfants mineurs d'âge emprisonnés à la prison centrale de Makala au pavillon 10 pour des motifs irrévérents. Pour étayer leurs propos, le communiqué de ces organisations est allé même jusqu'à citer les noms de quelques personnes victimes d'arrestations et de détentions arbitraires, dont les activistes du mouvement LUCHA, Lutte pour le Changement, et quelques étudiants de l'UNIKIN. Parmi les victimes d'emprisonnements illégaux, la Fondation Bill Clinton pour la paix a cité une dizaine de noms, dont Maître Firmin Yangambi. Enfin, les ONG recommandent au Conseil supérieur de la magistrature de diligenter une enquête dans les lieux carcérés afin de sanctionner tous les magistrats qui sont à la base de ces arrestations et détentions arbitraires ainsi qu'emprisonnements illégaux conformément à la loi portant statut des magistrats ainsi qu'à l'article 180 du Code pénal congolais. Au président de la République, en tant que garant de la nation et de la Constitution et magistrat suprême, les organisations de défense des droits de l'homme demandent de veiller sur l'exécution sans discrimination de la loi d'amnistie.
Merci, Berry Franklin Luchaka. Et parmi les dénonciations, il y a le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique qui dénonce l'arrestation arbitraire du bâtonnier Muyambo et de Maître Chibangu Kalala. Monsieur Cole, je rappelle que vous êtes président de la Fondation Bill Clinton pour la paix, une ONG de défense de droits de l'homme. Sur quoi vous vous êtes basé pour dire que ces arrestations sont arbitraires?
Bon, madame, je vous remercie pour votre question. Mais avant de commencer, moi j'ai un slogan. Mon slogan, c'est la deuxième fois que je suis devant de vous dans la radio Capi. Je dis, les droits de l'homme, c'est une affaire de tous. Profitez-vous d'arranger les problèmes des droits de l'homme. Tu n'attends pas de parler des droits de l'homme, de démocratie, lorsque vous n'avez pas d'affaire. Fin de citation. Maintenant, pour revenir à votre question, nous avons fait un rapport sur les prisons de l'RDC, pratiquement à Kinshasa. Dans notre rapport, nous avons raté beaucoup de différences et l'abus des droits de l'homme. Bien que, à travers de cet rapport, le gouvernement de l'RDC avait eu une volonté de donner la libération de certaines des gens, mais le résultat n'est pas escompté. Si nous parlons de les arrestations arbitraires, nous ne voyons pas les motifs, mais nous voyons les procédures. Est-ce que les procédures telles que reconnues par le code pénal congolais est respectée dans tous les niveaux? Je dis non. Pourquoi? Parce que la OPJ et la 48 heures de déférer les suspects devant des magistrats, magistrat dans son tour, elle a 5 jours de transférer ça au tribunal. Au tribunal, le juge, elle a 8 jours de prononcer. Est-ce que madame, allez actuellement, vous pouvez me dire, cette procédure est respectée en RDC? Oui ou non? Je ne crois pas.
Vous ne pensez pas que cette procédure est respectée? C'est comme ça que vous dites qu'il y a trop d'abus de droits de l'homme en RDC. C'est ça qui vous pousse à dire ça?
Ce n'est même pas tout ça. Mais nous vous donnons l'exemple. Nous avons, par exemple, le secrétaire général de la justice. Il était arrêté avec son collègue, 2 personnes, depuis 2012, pour détournement des fonds des deniers publics. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont condamnés pour 2 ans. Après 2 ans, ils sont aujourd'hui dans 4e année. Ils ne sont pas libérés. On appelle ça quoi? On appelle ça détention illégale. Madame, nous avons beaucoup les cas. Vous avez vu.
Mais est-ce que vous avez contacté, vous êtes entré en contact avec le ministère de la Justice pour essayer de savoir pourquoi les procédures ne sont pas respectées?
Le ministre de la Justice, on sait. Mais le ministre de la Justice, c'est un politique. Comme c'est le politique, elle a envie de défendre les enfants qui ont commis l'infraction. Lorsque un papa, les enfants commet l'infraction, papa toujours protège les enfants. Nous sommes tous les jours ensemble avec le ministre de la Justice. C'est la raison dans laquelle le ministre de la Justice a promis pour libérer 318. Malheureusement qu'il y avait des complications, il y avait certains magistrats qui étaient venus avec le nom de des gens qui ont été libérés et ça avait eu des complications. Au lieu de 318, ils sont libérés seulement 200 quelques. Et voilà aussi là la problématique. Vous voyez, donc le ministre de la Justice, elle n'est pas sur le terrain. Mais le ministre de la Justice, elle a une bonne volonté de faire quelque chose, mais entourage un peu de l'embrouiller. Lorsqu'il est embrouillé, il est confus, il ne sait pas quoi faire.
Et donc le problème se pose beaucoup plus au niveau des magistrats.
Au niveau des magistrats.
Mais ce n'est pas la première fois que vous dénoncez cela, Emmanuel Coll.
On dénonce ça, mais on ne voit pas le changement. Voilà, c'est ça qu'il faut que, lorsqu'on n'est pas mort, lorsque le serpent est tué, vous n'avez pas coupé la tête, il faut continuer jusqu'à couper la tête pour voir que voilà, le serpent est mort.
Et vous pensez que avec le fait de dénoncer, ça pourrait améliorer la situation?
Oui, parce que je sais que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, un monsieur qui est toujours même, ce n'est même pas la première fois, parfois lorsqu'il parle, il a l'habitude de dénoncer les malfaits du magistrature. Mais bon, comme vous voyez, comme elle est galant de la nation, il ne veut pas continuer à faire ce genre de choses. Mais comme aujourd'hui, un ONG indépendant, il vient de dénoncer ça, je crois qu'il va prendre ça en compte.
Merci beaucoup, Emmanuel Coll. Dieudonné Mouzi, vous êtes député honoraire et communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez-vous cette dénonciation de la Fondation Bill Clinton?
Merci, madame. Nous avions reçu depuis 2 jours la dénonciation de la Fondation Bill Clinton avec les autres ONG de droits de l'homme lors du point de presse qui a été animé. essentiellement par M. Emmanuel, qui est avec nous dans ces studios. Et nous avions compris que les droits de l'homme réellement en RDC n'étaient pas respectés, tel qu'il venait de le dire. Mais nous étions plus ou moins, nous sommes interrogés sur ce qu'il faut aujourd'hui appeler la confirmation de cette ONG. Je crois que quand vous entendez M. Emmanuel parler, il dit quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire le respect de la procédure pénale. Mais l'affirmation pour nous a été un peu plus forte quand nous apprenons de ces ONG qu'il y a trop d'abus des droits de l'homme en RDC. Je crois que d'emblée, quelqu'un qui suivrait ce point de presse se dirait qu'il doit y avoir des abus peut-être faits expressément par le pouvoir en place, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. La vérité, c'est, je crois que c'est ce qu'il est en train de dire, et avec l'explication qu'il donne dans ce studio, nous tentons de comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'attaque beaucoup plus à la procédure judiciaire, et il s'attaque également à la lenteur qui est généralement constatée dans l'administration de la justice.
Mais entre-temps, les droits de ces détenus sont violés?
Oui, effectivement, si on peut s'en tenir à ce rapport, les droits de ces détenus réellement sont violés. Mais comme vous le savez, le gouvernement de la République démocratique du Congo a une difficulté vraiment réelle, il faut le reconnaître, dans ce sens qu'au même moment, ces ONG dénoncent le fait que les droits de l'homme sont bafoués en RDC, comme nous venons de l'apprendre avec la Fondation Bill Clinton et les autres ONG. Mais au même moment, les mêmes ONG...
Mais avant, vous ne le saviez pas, monsieur?
Non, nous le savons puisque nous sommes en République démocratique du Congo. Je ne peux pas vous dire que nous sommes dans un paradis. Non, nous sommes dans un territoire national qui est habité par des hommes avec leurs faiblesses. Mais j'ai simplement dit que la dénonciation, elle est tellement forte. Mais au même moment qu'il y a la dénonciation de dire « il faut... » que les droits de l'homme soient respectés, mais au même moment également, les mêmes ONG insistent, et toujours ce sont les critiques qui sont administrées à l'endroit du gouvernement congolais pour dire il y a impunité. Donc nous devons savoir qu'est-ce que le droit de l'homme voudrait savoir réellement, ou les organisations des droits de l'homme. Est-ce que c'est le fait que l'on a emprisonné les citoyens congolais pour une raison ou une autre, ou c'est le fait que la procédure n'a pas été suivie? Si c'est un problème de la procédure, nous sommes d'accord que cette procédure soit accélérée et suivie pour que réellement ceux qui sont condamnés soient condamnés. Mais le fait de dire simplement que les droits de l'homme sont bafoués, je crois que c'est une affirmation grave que nous n'acceptons pas. Pourquoi? Puisque nous croyons que tout celui qui se trouve aujourd'hui en prison doit avoir un motif pour lequel il se trouve en prison. Mais si la procédure n'a pas suivi, je suis conscient personnellement qu'il s'agit des efforts à engager dans la République démocratique du Congo.
Mais ce n'est pas la première fois que cette ONG dénonce ce genre de choses.
Il est vrai que ce n'est pas pour la première fois que cette ONG, même d'autres ONG dénoncent
cette
lenteur dans la procédure. Pas simplement les ONG, même les Congolais, et même se plaignent du fait que par moment, dans cette procédure, on n'est pas tellement diligent pour que ceux qui sont inculpés soient réellement inculpés.
Mais pourquoi ça ne s'améliore pas selon vous, M. Moïse?
Non, je crois qu'il y a un problème de notre justice elle-même et de ceux qui sont appelés à l'administrer. Je crois que là, on parle des magistrats, il y a un conseil supérieur de la magistrature qui fait un effort pour corriger les choses, mais je ne peux pas prétendre dire que tout est déjà corrigé. Je crois qu'il faut du temps, vous savez, nous venons de très loin, et notre justice, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas parfaite, je le reconnais. Il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette justice et qu'il est normal que nous puissions tous travailler. C'est pour cela que nous acceptons les remarques formulées par les ONG des droits de l'homme, pour que nous puissions mettre ça à profit et corriger ce qu'il faut corriger et améliorer la procédure judiciaire en matière de condamnation. Mais les affirmations doivent être dosées, puisque quand on dit simplement les droits de l'homme sont trop bafoués, il y a beaucoup d'abus des droits de l'homme en RDC, ça donne l'impression, puisque j'ai lu le point de presse, le contenu du point de presse, ça ne semble pas être trop explicite, les cas sont donnés, mais je crois que pour chaque cas, il y a une explication à donner, et nous n'allons pas nous mettre à expliquer ça autour de cette table, dans ce studio, ça sera difficile, et même quand on parle de l'amnistie, je crois que madame, nous devons faire la part des choses. Il est vrai que c'est cette loi existe depuis l'année 2014, je crois au début de l'année. Il y a une période qui a été circonscrite pour les faits à amnistier. Il y a même les faits qui ont été cités, qui ont été amnistiés. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que les cas que ces ONG ont visités dans les différents coins de la République, ici nous parlons principalement de la capitale, prison de Makala, Ndolo et Amatete, est-ce que ces cas sont réellement ciblés par l'amnistie qui a été votée et publiée ou promulguée par le chef de l'État l'année passée?
Merci, Monsieur Cole va vous répondre. Monsieur Christian Munganza, je rappelle que vous êtes analyste politique. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette dénonciation faite par la Fondation Bill Clinton et les ONG de droit de l'homme congolais?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. D'emblée, je voudrais dire, je viens d'écouter mes deux co-débatteurs sur ce plateau. Je constate que M. Cole, tout comme M. Dodonné Moïse, sont animés de la ferme volonté de pouvoir tirer au clair de la situation des justices dans notre pays. Vraiment, c'est une gangrène, c'est vraiment une difficulté permanente. Mais je me pose la question souvent en faisant des réflexions. Il y a eu des états généraux de la justice dans ce pays tenus du 27 avril au 2 mai 2015 sous le haut patronage du président de la République, magistrat suprême, portant sur l'amélioration de la justice en RDC et des services pénitentiaires. Quand nous voyons la chronologie, le mois de mai 2015 jusqu'à aujourd'hui, au mois d'octobre, mais je me dis dans 5 mois, est-ce qu'on peut déjà escompter des résultats pour pouvoir améliorer effectivement cette justice qui est décriée pendant des années? Alors, pour ce cas, au nom du principe de la séparation de pouvoir, nous nous posons la question pour le commun des mortels de constater qu'il y a quand même certaines sortes de pesanteurs qui pèsent sur les magistrats dans la manière de dire le droit. On nous apprend, le ministre de la Justice, il est politique. Doit-il agir comme politique pour défendre la justice de son pays ou bien se référer aux instances qui existent pour pouvoir défendre sa propre chapelle? Alors, c'est un cas qui arrive parce que le rapport ou le point de presse de la Fondation Bill Clinton, c'est dans l'illuminaire de pouvoir éclairer la lanterne, de nous dire effectivement qu'on soit du domaine du pouvoir politique ou que l'on soit du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, voudrais-je dire, ou législatif, ce problème de droit de l'homme est un problème de tout le monde. Nous devons chacun, dans le pouvoir qui lui sont reconnus, de pouvoir mettre la pierre dans l'édifice, dans la construction de cet édifice. Parce que, quels sont les cas que nous trouvons, que j'ai eu épinglé dans le point de presse? C'est parler, par exemple, de la surpopulation carcérale dans les conditions très précaires des prisonniers. La mise en œuvre en retard dans la budgétisation, là je parle même d'une plaidoirie au sein des administrations carcérales qui ont des problèmes à pouvoir assurer l'alimentation des prisonniers. Que ces prisonniers-là soient détenus de manière arbitraire, de façon arbitraire, ou qu'on ne respecte pas la procédure dans l'arrestation de ces prisonniers, mais ils sont privés de leur liberté. À ce stade ici, allons-nous penser aussi, parce que quand il y aura peut-être le droit qui sera dit pour justifier celui qui est justifiable et pour condamner celui qui est condamnable, mais celui qui est justifiable, par exemple, et qui a purgé une peine parce qu'il n'a pas été condamné à temps. Et voilà, est-ce que les méthodes, l'État prévoit une sorte de réparation par rapport à ce préjudice prévu? Je vais encore citer un autre cas, je termine le cas de la budgétisation qui était mensuelle à l'époque. Aujourd'hui, la budgétisation des administrations carcérales est devenue annuelle. Et le décaissement de cette somme d'argent est toujours très mis en lenteur pour des raisons non avouées. Parlons aussi peut-être d'un autre cas que j'ai eu épinglé dans le point de presse, c'est par rapport aux mineurs détenus. Ces mineurs détenus, ils sont en âge de scolarisation. Une fois qu'ils sont privés de leur liberté et sans justice, ils sont détenus comme ça. Alors qu'à l'intérieur, quand l'administration carcérale avait les moyens dans le temps, pensait à assurer une formation professionnelle de ces mineurs, une fois purgés leur peine au niveau de leur lieu carcéraux, ils doivent justement se faire réintégrer au niveau de la société, qu'ils ne trouvent pas un retard par rapport à leurs autres frères d'âge qui sont dans la situation de scolarisation normale. Donc, quand on prend le tout, on se pose beaucoup de questions, on se dit, il ne faut pas toujours incriminer les ONG. Quand elles viennent, ces ONG, parlons-en, ils ont des autorisations de l'État congolais. Ils ne viennent pas par de fenêtres, ils viennent par de voies reconnues. Et je crois que ce sont les autorités qui acceptent et qui leur donnent leur moyen de travail, d'agrément.
Alors, M. Cole a parlé de violation, qu'il y a trop d'abus dans la violation de droits de l'homme en RDC. Il y a M. Mwenze qui n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Il dit que le terme est quand même fort. Hein. C'est vrai, il reconnaît qu'il y a un problème au niveau de la procédure pénale, mais dire qu'il y a trop d'abus de violation de droits de l'homme, c'est quand même fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Rapidement, en un mot.
Oui, moi, Christian, oui. Oui, les trop d'abus, je crois que quand je vois M. Emmanuel parler de trop d'abus, c'est par rapport, quand il a essayé de quantifier hein, surpopulation des prisons, il a essayé de parler de la procédure, il a essayé de parler des situations sanitaires dans les lieux carcéraux. Je crois que quand on fait ce package-là, on se dit évidemment, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la justice et principalement pour les détentions arbitraires et aussi les emprisonnements illégaux.
Merci Monsieur Christian Munganza. Monsieur Emmanuel Cole, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Je réponds au nom de Jérôme Kambale Kazingoufou, j'appelle à partir de Beni en province du Nord Kivu. Si la fondation Bill Clinton a fait ses constats des violations des droits de l'homme et autres arrestations arbitraires dans les prisons de la capitale, elle peut facilement s'imaginer les réalités dans les prisons de l'intérieur du pays. Notre pays est un signataire des accords internationaux dans ce sens. Il est important que cette fondation ne se limite pas à la dénonciation, mais à faire une plaidoirie en faveur des victimes à l'ONU, afin de contraindre les autorités congolaises au strict respect des droits de l'homme, surtout en cette période préélectorale où le pouvoir en place ne supporte plus tous ceux qui veulent le contrarier. Et ne tarde pas à charger forcément ses cibles. Sinon, c'est la loi de la jungle qui va continuer à régner.
Alors, comment vous répondez à cet auditeur qui vous demande de ne pas vous limiter seulement à la dénonciation?
Oui, madame, je viens de vous dire que dans notre rapport du 1er juin, nous avons fait un rapport sur tout l'étendue des territoires. Même si dans la capitale, le problème des prisonniers, c'est un problème préoccupant, combien de fois que dans les provinces, c'est vraiment trop catastrophique. Nous connaissons. Et nous sommes en train de faire l'effort pour arriver de là. Si à Kinshasa, on vient de découvrir plusieurs fois des irrégularités, les arrestations habitées, les détentions habitées, combien dans les provinces? Les provinces, là, on ne peut même pas parler. Donc, je lui dis d'être calme. L'enquête est continue, on peut aussi l'arriver là-bas.
Alors, sa question a deux volets. La deuxième partie de sa question est celle de savoir pourquoi vous ne faites pas carrément une plaidoirie en faveur des victimes au niveau des Nations Unies.
Écoutez, les plaidoiries qui nous font, le rapport, même lorsque je suis en train de parler, mais vous sommes bien placés. Le MONUSCO, c'est une Nations Unies. Mais lorsque nous parlons ici à MONUSCO, vous faites un rapport. Mais si je ne sais, je ne fais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous on pourrait faire? Parce que tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on rapporte l'information de acquis du droit. Si l'acquis du droit reste soumis, nous on ne peut rien faire. Le Radio Okapi, c'est un radio des Nations Unies. Tous qui ont été ainsi, ils ne cessent de nous suivre. Mais si ils ne cessent de nous, ils ne prennent pas l'action, qu'est-ce que nous on peut faire, maman des journalistes? On peut rien faire. Donc, c'est à vous de rapporter ça, et pour que des gens prennent l'initiative, l'action, s'y va contre le pays qui m'a traité de prisonnier. D'abord, lorsqu'on parle de prisonnier, on est des... Comme j'ai les chiffres avec moi ici. D'abord, il y a des chiffres contraires. Lorsque vous partez au tableau, vous devez voir un autre chiffre. Lorsque vous sommes allés à l'intérieur, vous voyez un autre chiffre. On ne sait pas cette contradiction. Ce que je retiens ici, nous avons 6898 prisonniers à Sipika. Parmi eux, il y a seulement 1550 qui sont condamnés. Prévenus, 1046. Notre chiffre vous donne 6460 qui sont prévenus, 1446 qui sont condamnés. Donc, on ne voit pas quel est le tableau qui dit que, en gros, nous sommes en train de dire que nous sommes face d'une prison trop populiste. C'est que l'autorité doit faire. C'est-à-dire, surtout les conseillers supérieurs de magistrature qui doivent veiller sur le magistrat d'appliquer la loi, de bien travailler, il doit faire son travail. S'il ne fait pas le travail, les prisons doivent être augmentées. Parce que vous voyez, même ce chiffre-là, contradictoire, montre qu'il y a les prisonniers qui ne sont pas les dossiers. Si les prisonniers ne sont pas les dossiers, comment détecter? S'il n'y en a pas une enquête approfondie, comment faire? C'est pour ça que nous vous disons que nous vous avons donné les données, mais il s'agit de l'autorité, nous le prouve. Ce que vous avez fait là, c'est faux. Pour nous dire les choses contraires. Voilà, donc c'est ça.
Alors, il y a M. Moïse qui n'est pas d'accord avec vous lorsque vous parlez d'abus de droits de l'homme en RDC.
Mais qu'est-ce que ça dit d'abus de droits de l'homme? La constitution congolaise connaît les méthodes d'arrêter quelqu'un. La constitution du 18 février 2006 connaît les méthodes d'arrêter quelqu'un. Par convocation. Et en plus, le mandat d'Amini. Lorsque vous partez en prison, vous ne devez pas trouver au moins 5% des gens qui disent « Moi, j'étais arrêté par un mandat d'Amini. » Bulletin de service des OPJ. Or, le bulletin de service des OPJ n'est pas reconnu par la loi d'arrêter quelqu'un, si ce n'est pas la fréquence. En plus, nous avons un service que je respecte beaucoup, l'année. Qui c'est un service d'appoint qui prend les données et donne à la police d'arrêter. Il l'arrête. Même s'il arrête, mais il doit aussi respecter les procédures. Il ne respecte pas. Et il y a des gens. Je prends l'exemple de notre confrère Christophe Ngoï Moutamba, qui a fait 21 jours d'un endroit qui n'est pas prévu par la loi. Et en dehors de nous avons des Filemo qui sont faits aussi plusieurs jours dans le même endroit. Est-ce qu'on va construire un état de droit? On arrête les gens, on met dans un endroit qui n'est pas prévu par la loi? Et si ces gens là arrivent au parquet, au lieu de faire libérer, le parquet aussi fait la map, un ami à Makala. En dehors de ça, il y a beaucoup de cas. Je vous donne un exemple. Nous avons le colonel Baïti Prosper. C'est un colonel d'armée congolaise. Lorsque d'un pays anglophone, on parle d'un colonel, c'est un grand officier. On arrête, soi-disant, coup et blessure. De Makala, on ne prend Andolo. Jusqu'aujourd'hui, on le met dans un cachot, sans droit de visite. C'est un colonel d'une affaire conjugale.
Merci. Merci Emmanuel Cole de Donner Moïse. On va prendre également pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Fidèle Mugisho Kabunga, à partir de Bukavu au Sud Kivu. L'emprisonnement, les détentions illégales et même les répressions dont sont victimes toutes les personnes qui ne sont pas de la mouvance présidentielle prouvent à suffisance que la démocratie en RDC n'est que dénoncellement. Mais, d'une manière pratique, un grand travail mérite d'être fait sur terre.
Réaction de Donné Mwenze.
Tout de suite, je dois dire qu'il ne faudra pas qu'on fasse de l'amalgame. Je n'ai pas entendu du rapport de la Fondation Bill Clinton et des autres ONG confirmer que ce qu'ils ont trouvé dans les trois prisons de la capitale, Makala, Ndolo et Matete, et ne sont pas de la mouvance présidentielle. Je crois que ça n'a pas été dit. Donc, ça peut arriver qu'il puisse y avoir des gens de l'opposition ou de la mouvance présidentielle. Et je crois que ce qui est important, c'est de parler des Congolais tout court. Je suis d'accord avec la dénonciation. Il s'agit des violations de droits de l'homme. Nous devons compatir. Et la Constitution est claire à ce sujet. Quand vous lisez la Constitution, je réaffirme qu'elle garantit les droits et libertés de tous les citoyens congolais. Et quand il y a violation, ça doit être une situation à déplorer. Et moi, j'aurais souhaité que les ONG des droits de l'homme qui évoluent en RDC ne puissent pas se limiter simplement à faire des points de presse, à alarmer l'opinion, puisque là, ça risque d'être pour une consommation extérieure, alors qu'il est important de pouvoir informer les institutions qui sont habilitées et à pouvoir réglementer ces secteurs de la justice. Et il est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons un problème sur le plan de l'administration de la justice en RDC, et essentiellement sur le plan de la procédure judiciaire et même de la diligence dont cette procédure doit bénéficier. Mais cela ne doit pas pousser à ce qu'il puisse y avoir des surchauffes dans l'opinion inutilement, puisqu'il s'agit d'un cas important qu'il faut analyser avec tête froide, sans pour autant voir de passion. Mais quand j'entends les ONG...
Mais comment on peut analyser ou comment on peut expliquer cette, excusez-moi le terme, passivité, lorsqu'on sait que c'est, en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dénonce le non-respect de la procédure pénale, ça revient chaque fois, mais rien ne change.
Non, et là, les ONG ne nous le disent pas clairement. Je crois que les situations anciennes qu'ils avaient déjà trouvées autrefois dans les prisons ne peuvent pas être comparées à la situation actuelle. Quand ils parlent par exemple de surpeuplement, bon, vous savez, nous avons des réalités, et surtout dans la capitale. Les prisons qui existent aujourd'hui dans la capitale ont été peut-être érigées pour d'autres populations. Aujourd'hui, le nombre n'est plus à celui-là. Donc, le nombre de la population dans la capitale est peut-être multiplié par 10, par 15. Donc, vous comprenez que ça peut poser problème.
Justement parce qu'on garde ces gens longtemps dans les prisons.
Oui, c'est pour cela que nous déplorons tout cela. Je suis d'accord. Nous déplorons tout ce que la procédure soit qualifiée de lente. Il faudra qu'on accélère la procédure pour permettre à ceux qui doivent être inculpés, d'être réellement inculpés, et ceux qui doivent être disculpés soient réellement disculpés. Donc ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Mais ce que moi, j'ai déploré simplement des ONG des droits de l'homme, c'est de vouloir confirmer à la face de l'opinion directement comme ça que les droits de l'homme en RDC sont trop bafoués, il y a trop d'abus en République démocratique du Congo quant à ce qui concerne les droits de l'homme. Et je crois que ce sont des affirmations qui sont très fortes, qu'il faudra peut-être diluer dans le sens que le gouvernement de la République est en train de faire déjà des efforts. Il y a beaucoup d'efforts en termes de la justice. Et d'ailleurs, vous rappelez, en 2010-2011, la Constitution avait été même révisée en termes de la justice pour que l'on puisse donner beaucoup de pouvoir au chef de l'État, lui permettre de pouvoir avoir un œil sur le Conseil supérieur de la magistrature et permettre à ce qu'on puisse booster, ne fût-ce que tant soit peu, la procédure en ce qui concerne la justice au Congo. Donc là, ça pose problème. Mais j'ai entendu tout à l'heure, quand il parle de l'amnistie, et je crois que ce sont aussi des erreurs que je ne voudrais pas, par exemple, trouver dans les statistiques, puisque là, j'entends parler de la période qui va du 1er janvier 2006 au 20 décembre 2013, alors que quand vous lisez la loi est claire à ce sujet, la loi ne parle pas de cette période. La loi parle d'une autre période. Par rapport au le mois de février. Donc la loi, j'ai la loi avec moi ici, il est dit que la période, dans l'article 1er, que la période de cette amnistie qui est concernée, c'est du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Donc au lieu du 1er janvier. Donc vous voyez que déjà cet écart peut poser problème que des personnes qui sont trouvées dans ces prisons, si elles sont concernées par une autre période qui n'est pas celle-là, mais alors que les ONG ont ciblé une autre période, ça peut poser problème. On peut croire qu'il y a
eu discrimination dans l'application de cette loi, alors qu'en réalité, non. Et même quand nous parlons de l'application de cette loi, je crois qu'il y a une procédure.
Mais il y a quand même des ONG, qui ont dénoncé cette discrimination, parce qu'il y a des gens qui ont été amnistiés, mais qui sont encore, qui traînent encore en prison.
C'est ce que nous disons, qu'il y a une procédure même pour amnistier les gens. Il est vrai que la période est déterminée, il est vrai que les infractions pour lesquelles on doit amnistier sont déterminées, mais il y a aussi une procédure qu'il faut prendre pour que des personnes soient réellement amnistiées. On a parlé à l'article 5.
Cette procédure peut prendre combien de temps ? Une année ? Deux ans ?
Non, c'est une procédure qui peut prendre très peu de temps, puisque quand vous lisez l'article 5, il est prévu que les personnes qui sont visées par cette amnistie doivent préalablement s'engager personnellement par écrit sur l'honneur à ne pas commettre des actes qui font l'objet de la présente amnistie. Et là, je ne sais pas si des personnes qu'ils ont trouvées dans des prisons ont rempli préalablement cette condition. Merci. Mais en dehors de ça, ces personnes s'adressent au ministère de la Justice. Donc, il y a l'appréciation aussi du ministère de la Justice. Est-ce que le ministère de la Justice a vu ces engagements personnels de tout un chacun qui sont concernés ? Est-ce que l'appréciation du ministère de la Justice est allée dans le sens d'accepter l'amnistie, d'accorder l'amnistie ou de ne pas accorder l'amnistie?
Merci.
Je crois que c'est un peu ça qu'il faut apprécier pour que l'on puisse comprendre si réellement il y a eu discrimination ou pas. Mais moi, je ne crois pas quel est l'intérêt que le pouvoir en place pourrait tirer de cette affaire en faisant discrimination dans l'application de la loi sur l'amnistie.
Merci, Monsieur Dieudonné Mwenzi. Monsieur Christian Munganza, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Patrick Mbili, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette énième dénonciation de cette fondation doit interpeller les autorités congolaises. Quand on sait que les autorités congolaises ne craignent pas à qualifier ce genre de dénonciation de procès d'intention, il serait mieux que les dirigeants congolais puissent faire de tout leur mieux d'améliorer la situation pour ne pas tomber dans le filet de ces frustrations pendant cette période de préélectorale.
À réaction.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Kachama. Depuis la province, l'ex-province du Katanga.
C'est plutôt Monsieur Mbouli.
Mbouli, Mbouli. Kachama, oui. Le poste nom, c'est Kachama, je crois, oui. Ouais. Merci. Donc, je comprends. Et puis, nous sommes à la période d'avant les élections. Il ne faut pas que de tels problèmes puissent un peu essayer de réchauffer les climats, les nerfs des paisibles citoyens congolais, surtout ceux qui sont justiciables. Oui, c'est de garder la sérénité. Justement, le travail que la fondation est en train de faire par le canal d'Emmanuel Cole et l'intervention énergique de Monsieur Dieudonné Mwenzi, je comprends, Monsieur Patrick, que in fine, c'est de chercher à trouver des solutions par rapport aux problèmes posés.
Justement, alors on va parler aussi, ça sera l'occasion de parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de situation en RDC, pour faire respecter la procédure pénale en RDC?
Merci madame. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre les responsabilités par les décideurs eux-mêmes. On ne peut pas toujours rester à fustiger de tels rapports, toujours alarmants. Vous venez de parler ici, quand vous vous adressez à l'honorable Dieudonné, vous venez de parler de la lenteur. Bon, qu'est-ce qui bloque pour la mise en application de ces résolutions, de toutes ces recommandations? Même le président de la République lui-même a fustigé à maintes reprises. Évidemment, il faut maintenant qu'on y travaille là-dessus. Il ne faut pas qu'on soit complaisant dans la nomination des magistrats, dans la mise en place des juristes pouvant dire le droit. Alors, c'est un travail de longue haleine. Hein, ça ne peut pas seulement se limiter aujourd'hui en dénonçant ce que nous faisons à la radio, on fait peut-être dans les médias. C'est aussi notre modeste contribution, je voudrais assurer à l'intervenant. Et essayer de pingler le problème épineux aussi de la justice des pays africains en général, et le cas de la RDC en particulier, c'est que c'est le manque d'indépendance de ce pouvoir-là, le pouvoir de la justice. Il est inféodé, je ne sais pas si c'est peut-être à tort ou à raison. Je vais essayer un peu d'illustrer sur le rap par un exemple. Lorsque nous savons que c'est le gouvernement ou l'État congolais qui doit disponibiliser les moyens financiers, à partir de la procédure jusqu'à l'incarcération et la prise en charge dans les lieux carcéraux des détenus. Alors, quand il n'y a pas de moyens financiers conséquents, comment que ce gouvernement qui doit amener ce moyen-là, comment voulez-vous que le magistrat ait pris de bonne volonté, ait pris de la déontologie professionnelle de pouvoir exercer son travail, pourra-t-il faire? Non, allons-y comprendre quelque chose. Ou bien c'est le pouvoir exécutif qui freine, ou encore le pouvoir judiciaire n'arrive pas à booster le pouvoir concurrent ami. Alors, je crois que ça risque de créer une confusion, mais nous devons avoir les pieds sur terre. Et en essayant de conclure, si vous permettez peut-être, c'est de dire que l'exercice du travail de l'administration publique, du pouvoir public, c'est ponctuel. Donc on ne peut pas, conjoncturel même, on ne peut pas, parce qu'il y a un problème d'amnistie, et voilà, ce sont des cas qui devraient être hantés ou postés. Donc vous voyez, c'est un travail au quotidien. C'est là que le commun des mortels arrive à suspecter, à tort ou à raison, le gouvernement pour dire voilà, ça c'est un procès politique, ça traîne, ça c'est un procès du droit commun, ça passe sans problème. Voilà un peu ce que je peux dire.
Merci Monsieur Munganza, Emmanuel Cole. Nous tendons vers la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement pour faire respecter les droits de l'homme en RDC?
Madame, je suis honorable que je respecte trop. Il vient de dire, voilà, il y a une amnistie qui a été faite et des gens qui devaient être bénéficiés, ils sont sortis. Mais cette amnistie a été faite d'une façon discriminatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a les bénéficiaires. Ils ne sont pas sortis, beaucoup sont là, sous toute la tenue du RDC. Même les autres qui sont remplis les fiches pour être amnistiés, ils ne sont pas. On n'a pas répondu. Même ceux qui sont acceptés, ils sont jusqu'au jour, ça fait 10 ans, ils ne sont pas libérés. Alors, quels sont des gens d'amnistie qui sont sortis? Même les autres qui sont sortis, on a mis à l'intérieur et tout ça. Ils sont en prison, ils ne sont pas bien traités et tout. Maintenant, écoutez, moi, j'ai toujours dit que les politiques, les droits de l'homme, c'est pour. On a bien tenté de parler. Est-ce que l'honorable, si demain, si ça arrive chez lui, et qu'on arrête quelque part, et qu'elle n'est pas nourrie, et c'est certain content, je ne crois pas. En plus, moi, je dis que les droits de l'homme, c'est une affaire de tous. Nous avons le maître Yangambi, qui est dans un groupe qui a eu les lois d'amnistie. 2 ans, elle attend, malade.
Mais qu'est-ce que vous proposez? Il nous reste
Je me propose que le président de la République, qui je n'aime bien, un monsieur anglophone comme moi qui est l'étudié d'un pays anglophone, et la sagesse investit pour que cette amnistie décrite loi doit être respectée. En plus, en dehors de ça, moi j'ai fait l'aspect, la constitution congolaise. Parce que la constitution, lui-même a dit, la constitution congolaise.
On n'a plus beaucoup de temps, en un mot.
Le président de la République doit veiller pour que le droit, respect la Constitution. Parce que la Constitution, merci. C'est la Bible du Congo.
Merci Emmanuel Cole de donner Moïse à moi en guise de conclusion.
Non, en guise de conclusion, je dois simplement féliciter les ONG des droits de l'homme pour les remarques qui ont été soulevées et même des suggestions telles que je suis en train de les entendre autour de ce micro. Mais je voudrais simplement dire que le gouvernement de la République devra capitaliser toutes ces remarques pour que réellement les conditions des droits de l'homme soient améliorées dans ce pays.
Merci.
D'autant plus que la Constitution de la République réaffirme cette possibilité de garantir les droits et libertés des citoyens congolais.
Merci de donner Moïse. Monsieur Munganza, un mot pour conclure.
Merci, c'est un honneur et un plaisir de me retrouver aux côtés de l'honorable et M. Emmanuel Cole de débattre les questions à intérêt national.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Mary Franklin Douchaka sous la supervision de Pelé Kipelamondo. Merci à Sylvain Matundu qui était à la prise de son au micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.